RTL L'Équipe, le Café des Sports, Emmanuel Barthes.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur RTL L'Équipe. J'accueille aujourd'hui un ancien footballeur professionnel, champion du monde en 98, champion d'Europe en 2000, champion de France en 94 avec le PSG, Bernard Lama, et l'invité du Café des Sports, le face-à-face à venir dans quelques secondes. Comme tous les jours, le quintet à 13h50 et bien sûr les débats à 14h. Et pour débuter cette information qui est tombée il y a, allez, tout juste une heure, le Paris Saint-Germain change de propriétaire. C'est désormais une société d'investissement du Qatar qui devient actionnaire majoritaire à hauteur de 70%. Une conférence de presse est prévue dans l'après-midi. Nos spécialistes nous diront si c'est une bonne chose pour le club et tous les supporters du PSG. Football, toujours, nous parlerons des luttes de pouvoir à la Fédération française de football. Élection prévue le 18 juin prochain. Notre invité Bernard Lama soutient la candidature de Fernand Duchossois. Il nous dira pourquoi l'actuel président est l'homme de la situation. On programme également le tennis et le choc du jour entre Roger Federer et Gaël Monfils. Quart de finale de Roland-Garros. La question est simple, le français peut-il terrasser l'actuel numéro 3 mondial et décrocher son billet pour les demi-finales? Nous retrouverons Clément Grèze à Roland-Garros depuis la porte d'Auteuil. C'est bien le Café des Sports, nous sommes ensemble jusqu'à 14h30.
RTL L'Équipe, le Café des Sports.
Bernard Lama, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous allez nous accompagner tout au long de cette émission. On va parler football, bien évidemment. On va parler également d'un match. Et puis, c'est la raison de votre venue, bien sûr, dans ce Café des Sports, en l'honneur de David Sommeil. Match prévu demain à Ningesser, à Valenciennes. On va y revenir d'ici quelques minutes. Mais avant, évidemment, l'information du jour, c'est le rachat, l'arrivée d'un actionnaire majoritaire au sein du Paris Saint-Germain en provenance du Qatar. Il y a un lien tout à fait particulier, évidemment, vous concernant avec le club de la capitale. Comment vous prenez cette annonce? On va avoir l'occasion d'ouvrir les débats un petit peu plus tard. Mais...
Ouais, c'est un peu la surprise. C'est un peu la surprise. Je l'apprends pratiquement là, en venant chez vous. Donc, je peux difficilement commenter. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que si le PSG veut rattraper quelque part son retard, il faut des moyens financiers. Ça, c'est évident. Donc, ce qui est à espérer, c'est que ce nouveau partenaire amène ces moyens financiers-là et que le club puisse recruter 3-4 joueurs de très haut niveau.
Et on peut tout à fait l'imaginer, parce que l'objectif, c'est ça, c'est faire rentrer de l'argent et recruter un effectif conséquent.
Oui, je pense que c'est l'une des parties de l'accord. Hein. Il n'y a pas de détails là-dessus, je crois qu'il y a une conférence de presse cet après-midi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la donnée économique est primordiale si on veut faire partie du quota européen. Et Paris ne peut pas se permettre de ne pas être à ce niveau-là. Donc, il est clair que ce qui sera demandé à cet actionnaire-là, c'est de sortir un petit peu la planche à billets.
Oui, actionnaire majoritaire à hauteur de 70%, on le rappelle, hein, Colony Capital qui va rester donc actionnaire à hauteur de 30%. Juste là, que je ne sais pas si vous avez vécu, on essaie de se mettre un petit peu dans la peau des joueurs, une telle situation. On est inquiet par ce genre de situation quand on est joueur, ou alors c'est une situation qui nous dépasse?
Non, pas qui nous dépasse, mais ça va pas jusqu'à l'inquiétude non plus. Je pense que un nouveau partenaire, c'est surtout pour sécuriser l'investissement du club, quoi, en fait. Donc c'est bon pour les joueurs aussi.
D'accord.
Donc je pense que les joueurs seront dans cette même lignée là aussi. Ils ont tout intérêt à avoir un club qui se renforce.
C'est ce dont a besoin le Paris Saint-Germain.
Si on il y a de bons résultats là depuis quelques années, donc depuis 3-4 ans, et plus particulièrement sur les deux dernières saisons. Donc maintenant il faut aller plus loin, il faut aller sur la Ligue des Champions, il faut gagner le championnat. Donc ça veut dire renforcer l'équipe.
Oui. Et ça veut dire forcément avoir de l'argent.
Ouais.
Et c'est ce qu'on attend évidemment avec cet investisseur. Je vous rappelle qu'une conférence de presse est prévue bien sûr dans l'après-midi. Juste pour parler du PSG, c'est toujours un club que vous avez dans votre cœur, que vous suivez toujours?
Oui, je suis en général tous les clubs où je suis passé. Et, bon, il y en a qui ont un peu plus mon attention, comme le PSG, comme le LOSC, comme Lens. Comme Brest, qui aujourd'hui est revenu en Ligue 1. Donc non, je suis tous mes clubs. Donc c'est vrai qu'à Paris, c'est à Paris que j'ai eu mes plus grands titres, enfin tous mes titres en fait, au niveau professionnel. Donc, mais quand je reviens ici, c'est à Paris que j'habite. Donc c'est clair qu'il y a, un attachement particulier.
Ouais, plusieurs titres évidemment, et puis avec le Parc des Princes, on connaît le public également parisien, qui était peut-être un petit peu différent il y a encore quelques années. Ça vous manque ces émotions aujourd'hui?
Non, je vis avec d'autres émotions. Je suis retourné en Guyane, donc je suis retourné dans mon club, je travaille avec mon club, donc Il y a d'autres émotions. C'est un autre niveau, c'est autre chose. Mais non, je n'ai pas de regrets particuliers ou de manque particulier.
C'est une sorte de retour aux sources alors ?
Ah, c'est pas une sorte. C'est un retour aux sources. Ouais. Moi, j'ai grandi en Guyane, donc je savais que j'étais en métropole que pour un temps donné. Et puis voilà, j'ai retrouvé un petit peu mon cadre naturel, je dirais.
Oui, vous étiez là, enfin, uniquement pour le football, et vous saviez même très rapidement, voilà, que c'était impossible pour vous de faire toute votre vie en métropole.
Ouais, non, c'était pas possible.
C'est vrai.
Non, j'ai évolué dans pratiquement toutes les régions de France, sauf le sud. Je passais par le nord, l'est, l'ouest. Mm-hmm. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Et puis, la vie en Guyane est complètement différente de la vie ici, en particulier à Paris.
Racontez-nous ça. Pourquoi ?
Ben pourquoi ? Parce que bon, on est un grand département qui a la taille du Portugal, mais c'est un département qui n'est pas développé, donc enfin qui est très peu développé, donc il nous manque encore beaucoup d'infrastructures. Mais là-bas, j'ai une tranquillité d'esprit que je n'ai pas forcément ici, malgré les problèmes que l'on a sur place, parce que on a une population qui est très jeune, la Guyane est le seul département français à avoir de telles prévisions sur le futur. Hein. D'ici 15 ans, la population aura doublé en Guyane, donc on passera à plus de 600 000 habitants. Donc il y a beaucoup de choses à faire, et puis voilà, puis c'est chez moi, c'est tout. Et puis en 5 minutes, je suis à la plage, en 20 minutes, je suis en pleine forêt, sur un fleuve, donc ça on le trouve pas ici.
Vous arrivez à vous balader tranquillement là-bas, vous n'êtes pas trop dérangé par les gens sur place?
Non,
j'imagine
qu'on
vous connaît là-bas, évidemment.
Bien sûr, mais c'est aussi l'un des avantages que l'on a en Guyane. La Guyane n'a pas le culte de la personnalité.
Ah.
Donc je peux aller faire mon marché tranquillement, régulièrement. Bon, mais ceci dit, je suis pas trop en ville, je reste plutôt chez moi d'ailleurs, parce qu'il y a du boulot. Et je dois être en connexion avec presque beaucoup d'amis qui sont de par le monde. Donc voilà, je passe l'essentiel de mon temps entre chez moi et le terrain de foot à l'USL Montjoly.
D'accord, le culte de la personnalité, ça pour le coup, c'est quelque chose qui est très présent évidemment ici en France. C'est quand vous baladez dans les rues à Paris, on vous arrête, j'imagine, assez souvent, on vous reconnaît évidemment.
Ouais, on me reconnaît, mais maintenant ça va nettement mieux qu'à une époque. À une époque, c'est vrai que je pouvais pas prendre le métro.
Après la Coupe du Monde, par exemple.
Oui, mais même avant. Hein,
après le titre avec le Paris Saint-Germain.
Avec le PSG. Ouais. Bon, quand je jouais à Paris, j'habitais pas sur Paris.
Ouais.
Et je ne vivais pas à Paris, donc. C'est plus après, quand j'ai arrêté, que j'ai commencé à vivre sur Paris même, au centre-ville, on va dire.
Oui, oui.
Là, c'est vrai que par moments, c'était compliqué pour moi, surtout quand le PSG ne marchait pas, et surtout au début des années 2000, c'était assez délicat, et on n'arrêtait pas de m'arrêter, de me poser des questions, de me demander pourquoi j'allais pas aider. Enfin, c'était par moments pénible. En fait, dès que j'avais l'impression que... dès que je sortais dans la rue, il y avait toujours quelqu'un pour m'interroger, me demander comment les choses.
Vous sentiez agressé alors ?
Ouais, c'était une forme d'agression qui est pas forcément qui est pas toujours désagréable, mais qui au bout d'un moment devenait fatigante parce que je pouvais pas faire un pas sans qu'on m'interroge sur le PSG. Donc mais bon voilà, aujourd'hui j'ai fait un autre choix de vie. Et je suis très bien là où je suis.
D'accord. Bon, vous revenez toujours de temps en temps, peut-être à contre-cœur en tout cas.
Non, jamais
en métropole.
À contre-cœur. Non, pas du tout. Pas à contre-cœur. C'est vrai que j'aimerais. Bon, je viens régulièrement ici. Je suis ici régulièrement. Donc, même si je ne reste pas forcément tout le temps sur Paris, Paris est devenu un hub pour moi. Quoi. Donc, mais non, je viens toujours avec plaisir. Il n'y a pas de regret, sauf en hiver. En hiver, c'est un peu plus dur.
C'est un petit peu plus compliqué. Alors, une des raisons de votre venue, c'est bien sûr le match de demain. On va aborder ce sujet. Match demain à Nagesser à Valenciennes, un match en l'honneur de David Sommeil, ancien défenseur, hein, on le rappelle, du club nordiste, qui a dû raccrocher les crampons suite à un malaise cardiaque. C'était en 2008. Plusieurs joueurs ont confirmé évidemment leur présence pour soutenir bien sûr les proches et puis la famille de David Sommeil, entre autres Galas, je crois, Thuram, Makilele, ça, Carambeu ou encore Antoine Camboire.
Roger Mia.
Oui.
Je crois qu'il y a Christophe Dugarry aussi qui sera là. Il y en aura beaucoup, je pense que.
Beaucoup de grands footballeurs qui ont répondu présent.
Ouais. Mais je pense que c'est une bonne chose. Et puis, je crois que c'est aussi normal de notre part d'être là, d'être solidaire. Le football, c'est aussi ça. Le sport, c'est aussi ça. C'est aussi la solidarité. David a arrêté sa carrière parce qu'il n'a pas eu le choix, en fait. Et aujourd'hui, je crois que c'est normal de lui rendre hommage. Hein. Je pense que c'est la moindre des choses. Comme un garçon que l'on a côtoyé pendant des années dans le championnat de France et qui a toujours été un garçon, un garçon très joyeux, toujours là à donner la blague et puis toujours avec un bon état d'esprit. Je crois que c'est normal pour nous de lui rendre hommage.
Elle existe, cette grande famille du football ?
Oui. Même si elle est décriée depuis quelques mois. Hein, mais oui, parce que comme dans tous les milieux, hein, comme dans le milieu journalistique, vous avez une famille, vous avez des codes, vous avez des modes de fonctionnement. Ben, chez nous, c'est pareil. Cette famille-là existe réellement. Ouais.
D'accord. Vous êtes toujours en contact, par exemple, avec beaucoup de joueurs. Vous appelez assez régulièrement. Quel joueur, par exemple ?
Alors moi, je suis souvent en contact avec Jimmy Adjoye beaucoup, hein, ce qui est logique, hein, puisqu'on mène le projet Jambars, et puis c'est mon ami. J'ai souvent aussi Christian Carambeu.
D'accord.
De temps en temps, Patrick Vieira, donc tant qu'il est en pleine carrière, donc on le laisse tranquille. Mais voilà, et puis ponctuellement, j'ai d'autres garçons au téléphone, que ce soit Daniel Bravo ou Vincent Guérin.
Oui. Comment vous avez vécu cette situation il y a quelques semaines à peine, avec cette affaire des quotas? Mais là, je veux plus parler, bien sûr, on ne va pas revenir sur l'affaire des quotas et les propos de Laurent Blanc, mais plus sur les prises de position des joueurs, justement, de France 98. Tout le monde a été surpris. Tout le monde s'est rendu compte, finalement, que ce groupe France 98 n'était peut-être pas aussi uni que vous pouvez l'imaginer ?
Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse. Dans tout groupe, il y a différents caractères, différentes opinions. Et je pense que les opinions se sont exprimées à ce moment-là. Mais on reste un groupe uni qui est toujours là quand l'association le demande. Parce qu'on a tous répondu présent sur toutes les opérations qu'on a effectuées. Maintenant, de la même manière, le débat est dans la société, de la même manière, on débat chez nous aussi. Et le 11 juin, justement, on va profiter de ce regroupement pour pouvoir se voir en assemblée générale, une assemblée générale, et puis échanger, et puis discuter. Au-delà, parce que moi, je crois qu'au-delà de France 98, ce sont des hommes qui ont réagi. Ça n'a rien à voir avec France 98. Même si Thuram ou Vieira ou Dugarry ou Lisa
sont des joueurs qui symbolisent quand même, hein,
mais qui ne sont pas exprimés là dans le cadre de France 98.
C'est vrai.
Donc je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. Ça fait peut-être plaisir à certains de vos collègues d'essayer de porter atteinte à l'image de France 98, mais je pense que c'est pas du tout le cas. Là, ce sont des personnes qui sont exprimées, je dirais, individuellement. En fait, donc ça n'a rien à voir avec France 98. Il y a d'autres personnes qui ont réagi.
Oui, c'est vrai, complètement.
Donc, voilà. Et puis je pense que voilà. Et puis de toute façon, la démocratie, c'est aussi ça. Hein, la vie d'un groupe, c'est aussi ça. On n'est pas forcément toujours d'accord.
Alors une autre raison, bien sûr, de votre venue également aujourd'hui à Paris. Bon, on l'a dit, demain le match. On rappelle, hein, évidemment, match demain. Si vous souhaitez, donc en l'honneur, bien sûr, de David Sommeil, un AGCR à Valenciennes. L'autre raison, c'est que vous sortez tout juste, d'ailleurs, ce matin, du siège de la Fédération française de football, puisque vous soutenez la candidature de
Non, je ne soutiens pas la candidature. Je fais partie de la liste.
Voilà,
ça va plus loin que le soutien.
Vous avez bien raison. Pourquoi d'ailleurs ce choix ?
Parce qu'il me l'a demandé déjà, premièrement.
Mais j'imagine qu'il va y avoir une conviction, une envie de votre part également. C'est pas uniquement parce qu'il vous
laissez terminer. Si vous me laissez terminer, je pourrais vous expliquer.
Allez-y, expliquez-nous.
Moi je suis. Comment expliquer ? Je suis dans le système fédéral depuis tout jeune. Depuis la Guyane, je dirais, puisque j'étais international junior alors que je joue en Guyane. Et j'ai toujours avancé. Quand on fait une carrière dans le football, on avance en parallèlement à ce qui se passe au niveau de la fédération. Et on n'est pas toujours content de voir ce qui s'y passe. Et quand on a l'opportunité d'amener sa pierre à la construction d'un nouvel édifice, parce qu'il s'agit de ça, il s'agit de réformer le mode de fonctionnement, de réformer un petit peu cette fédération, pour moi, c'était naturel d'accepter. D'autant plus que j'ai des convictions et que je les partage avec les autres membres de la liste. Et on est là sur un projet vraiment collectif. On n'est pas là sur une ambition personnelle de devenir président de la fédération. Fernand Duchossois est devenu président de la fédération, je dirais, pratiquement par hasard, quoi. Du fait de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Et c'est quelqu'un qui a, je pense, globalement bien géré ce qu'il avait à gérer et qui n'était pas forcément C'est pas forcément évident, ouais. ça l'est toujours pas. Mais je pense que il y a une vraie liste là qui est faite pour travailler avec de vraies compétences dans tous les domaines. Et mais j'espère que ça se passera bien le 18 juin et qu'on pourra mettre en place le programme qui a été présenté là ce midi.
Alors je veux vraiment essayer de comprendre, hein, quel sera précisément votre rôle si jamais Fernand Duchossois est élu à une nouvelle fois donc poste de président de la Fédération française de football.
Il y a une direction naturelle qui est la relation avec les territoires d'outre-mer. Il y a une forte demande de ces territoires-là d'être représentés à la fédération. Donc c'est clair que si on est élu, ben je serai quelque part leur représentant et on se chargera avec les présidents de ligue de travailler sur le futur du développement du football en outre-mer. Mais il y a aussi des aspects de formation. Et la formation depuis plus de 10 ans avec Jean Barthes, je suis en plein dedans. Donc il y a des choses à apporter. Notre système de formation, il a failli de toutes les façons. Donc il y a des choses à revoir. Et puis il y a l'accompagnement des équipes de France aussi sur lequel je serai impliqué.
À quel moment il a failli, ça m'intéresse, ce système de formation.
Ouais, ça fait un petit moment déjà. Je pense qu'à un moment donné, on s'est pas forcément remis en question. Autant la France a été précurseur en matière de formation, ouais. Avec la mise en place justement des centres de formation, hein, qui avait été préconisé par Georges Boulogne, qui était le DTN à l'époque, dans les années 70. Donc la France a bénéficié de ça, mais elle n'a pas su rebondir, elle n'a pas su moderniser sa formation. Et on a pendant des années, je pense que en particulier à partir de 98, on s'est gossé de notre titre de champion du monde. Et il n'y a pas eu forcément de remise en question au niveau technique. Et je pense que c'est ce qui amène un petit peu cette crise-là, tant au niveau des institutions qu'au niveau du terrain, parce qu'il y a une vraie crise d'identité aujourd'hui. Au niveau de l'équipe de France, où j'entends dire qu'on veut jouer comme l'Espagne, alors qu'on est français. Donc moi, je préconise plutôt qu'on joue à la française et qu'on redevienne les Brésiliens de l'Europe.
Mais c'est quoi justement le jeu à la française alors?
Bah, moi, je crois que le jeu à la française est fait de beaucoup d'inspiration, de beaucoup de technique, de beaucoup de technicité. Donc je crois qu'il faut qu'on retrouve tout ça. Le football a évolué beaucoup sur les 20 dernières années au niveau athlétique. Et on a mis en avant l'aspect athlétique au niveau des joueurs et je crois qu'on y revient un petit peu et je pense qu'il faut trouver aujourd'hui un équilibre entre le côté athlétique. De toutes les façons, on ne peut pas faire du football au niveau international sans être très bon athlétiquement, mais il nous faut beaucoup plus développer aujourd'hui l'intelligence de jeu, la technique, et ça ressemble plus à la mentalité française, je dirais à la mentalité latine qu'autre chose. Donc je pense qu'on va essayer dans ce domaine-là aussi d'agir.
Oui, parce que ce serait complètement stupide de dire de changer complètement complètement stupide, je sais pas, mais de dire voilà, on laisse complètement de côté l'aspect athlétique et on favorise uniquement l'aspect technique comme pour jouer comme l'Espagne finalement. Il faut placer le curseur au bon endroit.
Oui,
quoi.
Je pense que de toutes les façons, comme je me répète, mais la France avait à l'époque, il y a 20-30 ans, la France avait l'image du Brésil européen, quoi. Il faut qu'on retrouve ça. Il faut qu'on retrouve ça, tout en gardant l'aspect, je dirais, professionnel des choses, tout en gardant les aspects athlétiques. Mais je crois qu'il nous faut aujourd'hui revenir à beaucoup plus de technicité, beaucoup plus d'intelligence de jeu, retrouver un petit peu ce qui se faisait dans les années 80, faire un mix entre ce qui se faisait dans les années 80 et ce qui peut se faire aujourd'hui.
Mais alors Bernard Lama, c'est terrible pour vous, parce que si jamais Fernand Duchossois est élu, on rappelle hein, la date pour être tout à fait précis, c'est le 18 juin prochain, ça veut dire que vous serez encore davantage sur Paris, évidemment encore moins en Guyane.
Oui, il va falloir que je m'adapte. De toute façon, non, mais
même
oui,
en hiver.
Oui, même en hiver. Donc, de toute façon, à partir du moment où j'ai accepté, je connaissais un petit peu les conséquences de ce choix-là.
C'est bien parti, c'est possible pour Fernand Duchossois. On rappelle qu'il a tout de même un sérieux client. Le plus sérieux, c'est Noël Le Graët en face de lui.
Alors, il y a deux listes en face et je crois qu'il faut donner la même importance à chacune des listes, aux trois listes. Je crois que chacun a un projet et défend son projet. Moi, ce que je peux dire et pourquoi je me suis engagé, parce que c'est tout simplement parce que j'ai senti qu'il y a, d'une part, j'avais une volonté d'apporter quelque chose, mais aussi j'ai senti qu'il y avait vraiment un projet collectif et que c'était pas une ambition personnelle. Ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs.
C'est l'amour du football qui fait qu'aujourd'hui vous vous intéressez encore à ce sport, parce qu'on pourrait, parfois on pourrait se dire une carrière c'est extrêmement compliqué, c'est long également, c'est parfois évidemment même psychologiquement fatigant, j'imagine, avec l'enchaînement des années. Vous avez gagné beaucoup d'argent, vous pourriez vous dire bon maintenant je profite simplement de la vie, mais non, vous avez toujours cette passion pour le football.
Ouais, bah, je suis un passionné hein, de toute façon. Moi depuis tout gamin, à l'âge de 7 ans je rêvais de devenir footballeur professionnel, donc je l'ai été pendant 20 ans. Aujourd'hui je suis passé à une autre phase de ma carrière footballistique, je dirais, puisque je suis dirigeant aujourd'hui dans mon club à l'USL Montjoly. Et pourquoi pas dirigeant fédéral. Je pense que c'est vrai que la reconversion naturelle des footballeurs ne va pas vers les instances, ne va pas vers des postes de dirigeant, mais plus vers des postes d'entraîneur. Moi c'est un peu le hasard de la vie, mais aujourd'hui j'ai l'opportunité de...
Mais vous avez été entraîneur également hein.
J'ai été entraîneur quelque part, je le suis. Non, je l'ai été un court moment au Kenya.
Au Kenya, c'était en 2006.
En 2006, ça a été une très très bonne expérience que je n'ai pas souhaité poursuivre, parce que on peut pas accepter. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter.
Comme quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez
Travailler sans conditions matérielles, c'est pas possible.
Ouais.
Donc au bout d'un moment, on dit stop. J'ai continué à peu ou prou à entraîner en Guyane, à m'occuper de... Bon, moi, je suis manager de mon club, donc ça veut dire que je mets en place la politique technique et que les programmes techniques de chaque section, c'est moi qui les fais. Donc, ça fait partie aussi de mes attributions. Donc, et en même temps, je suis aussi dirigeant, donc je dois penser au futur du club et à mettre... Nous, on a mis en place un plan sur 5 ans et on essaie de s'y tenir.
Sur RTL L'Équipe, le Café des Sports jusqu'à 14h30.
Et Bernard Lama qui nous dit en antenne qu'il n'est pas joueur, même pas sur Internet. Vous savez qu'on peut parier de plus en plus là sur les matchs, ça ne vous intéresse pas du tout. Hein.
Non, les jeux d'argent en général, non, je me tiens assez loin de ça.
Bon, vous laissez ça de côté. Vous êtes plutôt... Je vous pose la question parce que bon, quand on parle du football, on parle forcément argent. C'est difficile de gérer comme ça, plutôt bon gestionnaire. Vous pensiez à ça même lorsque vous étiez joueur? On prépare déjà la reconversion, on se dit bon, c'est important, il faut être prudent.
Oui, on y pense, hein. C'est obligé, c'est obligatoire, on n'a pas le choix de toutes les façons, parce qu'on sait très bien qu'on ne va pas gagner ces sommes-là éternellement. La carrière s'arrête vite. Hein. Bon, moi, c'est vrai que j'ai eu la chance de jouer jusqu'à l'âge de 38 ans, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et après la retraite, je dirais, footballistique, il y a toute une vie à faire, il y a toute une autre partie de votre vie, et donc vaut mieux y penser.
Ouais, vaut mieux y penser, effectivement, à l'avance. Et puis parfois, c'est pas toujours facile, hein, la reconversion, faut y penser, là, ça se prépare, bien sûr. On va parler tout de même de votre jubilé, hein, une grande fête qui se prépare au Parc des Princes le 11 juin prochain, là aussi avec beaucoup de stars du ballon rond, bien sûr.
Ouais, bon, enfin, on va essayer de ramener un petit peu tout le monde. Tous les garçons que j'ai pu fréquenter pendant une quinzaine d'années. Donc on sait qu'il y aura trois équipes, hein, bien évidemment, le PSG des années 90, donc avec les Ginola, avec les Valdo, les Rai, les Colletter, Bravo, vous les connaissez, Paoletta aussi. Il y aura les Black Stars aussi, avec des garçons comme Abedi Pelé, Samuel Eto'o, Nakata. Il y en aura plein d'autres encore, David, Okocha, Okocha avec le PSG, Abedi Pelé avec les Black Stars. On aura aussi France 98, où tout le monde a répondu présent. Donc on devrait faire l'idée c'est de faire un beau spectacle, qui est du spectacle sur la tribune, mais mais aussi dans les tribunes. On a prévu aussi des animations avec de la musique, des artistes qui vont venir chanter avec, un défilé carnavalesque, on va dire, qui va préfigurer ce qui va se passer le 1er juillet sur les Champs-Élysées. Donc voilà, on va faire un truc sympa, je pense. Ce sera une fête et c'est l'état d'esprit que je souhaite pour cette manifestation.
Une vraie fête.
Que les gens, le public vienne en famille au stade. En se disant que voilà, il n'y a pas d'enjeu particulier, on vient supporter personne, on vient simplement s'éclater. On vient au spectacle comme on peut aller voir un spectacle de danse ou aller au théâtre.
Pourquoi avoir attendu si longtemps pour faire ce jubilé?
Je pense que c'est lié surtout au fait que juste à la fin de ma carrière, je me suis complètement donné à fond sur Jambars. Et donc ça m'a amené à voyager énormément, donc j'avais pas le temps de vraiment de préparer un jubilé. Ça vient du fait aussi quand je voulais qu'à ce jubilé là il y ait une partie guyanaise, et on n'était pas avant 2009 on n'était pas en mesure de recevoir des équipes de haut niveau chez nous en termes d'infrastructure, de stade. Donc on a un stade tout neuf depuis 2009 justement. Donc là on peut aller en Guyane. Bon là ce sera pas le cas malheureusement comme je l'avais prévu. On va essayer de décaler ça pour le mois de décembre. Mais voilà les raisons. Et après bon 2009 on a fait le jubilé de Vincent Candela à Rome, et à partir de là j'ai averti que 2011 c'était moi. Sachant qu'en 2010, c'était pas possible puisqu'il y avait la Coupe du Monde.
Mmh. Alors, je vais vous poser la question parce que je vous trouve particulièrement affûté. Vous l'avez préparé, ou alors rassurez-nous, parce que je vais vous dire, quand je vous ai vu à la télévision il y a quelques mois, j'ai été particulièrement impressionné. Je me suis dit, est-il malade ? Je me suis posé cette question. Alors, rassurez-nous,
non,
Bernard
Lama. Je suis pas malade.
Vous n'êtes pas malade ?
Je suis pas malade. J'ai simplement repris les entraînements déjà d'une part. Donc, autrement dit, on a éliminer un peu de graisse.
Ouais.
Et puis voilà, tout simplement. Et de toutes les façons, j'ai pas pris énormément de kilos, peut-être 4-5, mais pas plus, même pas, quoi, parce que dès que ça commence à déborder, je suis mal à l'aise. Donc je fais attention, et j'ai toujours fait attention à ce que je consommais, à ce que je mangeais. Donc donc voilà, quoi. Mais jusqu'à preuve du contraire, je suis pas malade.
Bon, vous avez toujours gardé cette hygiène de vie.
Mais j'avoue qu'à un moment donné, oui, il y avait beaucoup de fatigue, parce que je travaillais sur beaucoup de choses, et beaucoup de fatigue mentale notamment, qui fait que parfois, quand on a beaucoup de choses en tête, on dort pas forcément beaucoup. Donc j'ai une période où je dormais pas beaucoup parce que j'avais beaucoup de choses en tête. Et donc j'ai peut-être perdu 1 ou 2 kilos là-dessus, quoi.
Parce que je suis sûr que cette question, vous l'a déjà posée.
Oui. Non, je m'en doute, parce qu'effectivement, à un moment donné, j'avais déjà perdu. J'avais retrouvé un poids de forme, et là, j'ai perdu 2 kilos, au moins 2 kilos sur la fatigue. Donc voilà. Mais bon, qu'on se rassure. Ça va.
Particulièrement affûté en tout cas pour le match de demain. Déjà, premièrement, on va rappeler match en hommage à l'ancien joueur de Valenciennes, David Sommeil, bien sûr, victime d'un malaise cardiaque. On le rappelle, c'était en août 2008, avec beaucoup de stars, bien sûr, demain, un AGCR. Le coup d'envoi, vous avez l'horaire précisément,
20h,
Bernard ?
Voilà. 20h.
Coup d'envoi à 20h.
Je crois qu'avant le match, il y aura quelque chose avec... alors, je ne sais plus si c'est les féminines ou le handisport. Mmh. Non, je crois qu'avec des aveugles, je crois qu'il y aura une démonstration avant. Et puis après, il y a 3 équipes. Il y a les anciennes VA, il y a les amis de David, et il y a le Black Star. Donc, ça va tourner à 3 à partir de 20h.
Tout cela pour soutenir évidemment la famille et l'entourage de David Sommeil. On rappelle l'échéance, mais on va y revenir d'ici quelques minutes. Bien sûr, c'est l'élection à la Fédération française de football le 18 juin, pour être tout à fait précis. Et puis, bien évidemment, on l'a dit, donc le 11 juin, quelques jours auparavant, le jubilé au Parc des Princes avec notre invité Bernard Lama. Restez connectés sur le www.rtl-l'équipe.fr. Ouverture des débats. Allez, dans quelques secondes, bien sûr. Et puis, on va parler football. Derrière, on va parler tennis. On va retrouver Clément Grèze qui est à Porte d'Auteuil, et puis on va accueillir notre journaliste Jean-Louis Tour d'ici quelques secondes.
Débattez vous aussi avec les journalistes de RTL L'Équipe via le mur Facebook RTL L'Équipe ou par mail à contact@rtl-l'équipe.fr.
Le Café des Sports, 14h, passé de 5 minutes, nous sommes ensemble jusqu'à 14h30. Bernard Lama est notre invité aujourd'hui dans ce Café des Sports. J'accueille Jean-Louis Tour, bonjour.
Bonjour à tous.
Jean-Louis Tour qui est de loin notre meilleur gardien, Bernard. Hein.
Gardien
de but à 16h perdues, n'est-ce pas?
Et on avait déjà discuté ensemble à l'inauguration du nouveau camp des loges. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Oula, ça date
un peu. Enfin, du nouveau, en tout cas, voulu par Alain Cézac à l'époque du PSG.
Ah.
Et ouais. Effectivement, Bernard est un peu mon idole.
Supporter du Paris Saint-Germain, Jean-Louis
Tour.
Bien sûr.
Quand même, parce qu'aujourd'hui,
il n'est pas fidèle, ce mec.
Bah non, mais je vous ai pas vu sur un terrain récemment. On verra au jubilé.
Le 11 juin, on rappelle la date du jubilé. Eric Silvestro est avec nous également depuis la Porte d'Auteuil pour Roland Garros. Bonjour Eric.
Salut Manu, bonjour à tous.
Bon, on va parler tennis également dans ce débat. Déjà, rappelez-nous les matchs du jour. Bon, on peut être déjà débuté. J'ai pas d'écran de contrôle juste en face de moi, mais je crois que c'était prévu pour 14h, le premier match de la journée.
On est à l'échauffement, en fait, Manu, sur les différents cours de Roland Garros. Il va y avoir sur le cours Sun England la fin du match qui n'a pas pu se terminer hier entre Andy Murray, l'Écossais tête de série numéro 4, et Victor Troicki, le bourreau de la France en Coupe Davis à Belgrade. On en est à 2-7 partout dans ce match. Les deux premiers sets pour Victor Troicki, les deux suivants pour Andy Murray, on avait arrêté à cause de la nuit hier soir. On va donc jouer la place de quart de finaliste sur un seul set pour affronter Juan Ignacio Chela. Autant dire quasiment être en demi-finale pour le vainqueur de cette rencontre entre Murray et Chela. Et puis sur le court, Philippe Chatrier, le court central, Francesca Schiavone, l'italienne tenante du titre, tête de série numéro 5, va affronter une des valeurs montantes du tennis russe, il y en a beaucoup, Anastasia Pavlyuchenkova, avant le grand choc du jour, le quart de finale entre Gaël Monfils et Roger Federer. On aura également plus tard dans l'après-midi sur le Line Lane Marion Bartoli, la dernière française en lice, face à Svetlana Kuznetsova, lauréate ici même en 2009.
Oui, le choc du jour, bien sûr, entre Monfils et Federer, l'occasion d'un débat un petit peu plus tard dans ce même Café des Sports. Rendez-vous dans quelques minutes. La question est simple. Gaël Monfils peut-il terrasser Roger Federer ou terrasser
ouais, carrément.
Battre, allez, simplement, ça serait déjà bien, et décrocher donc son billet pour les demi-finales. On va bien sûr ouvrir ce débat d'ici quelques minutes, mais pour l'heure, on va parler football. Vous le savez, information qui est tombée dans la matinée qui concerne justement le Paris Saint-Germain. On a déjà eu l'occasion d'aborder le sujet avec notre invité Bernard Lama, avec un actionnaire qui devient donc majoritaire à hauteur de 70% en provenance du Qatar. Jean-Louis Tour, je sais que vous êtes, allez, on peut le dire, supporter du Paris Saint-Germain. C'est une bonne nouvelle.
Écoutez, a priori, ça semble être une bonne nouvelle, mais il faut voir les intentions de ces nouveaux actionnaires. Je pense qu'il faut surtout pas casser la dynamique actuelle du PSG, parce que même si la saison, il y a quelques regrets à l'arrivée, c'est quand même une très bonne saison, et le PSG travaille bien avec Robin Leproux, avec Antoine Comboiré depuis plusieurs saisons maintenant. Donc, quel que soit le nouvel investisseur, il faut garder les gens en place, il faut laisser la continuité, notamment je pense à l'action de Robin Leproux. Et maintenant, il faut voir si tout cela va se traduire dans les faits par un apport au niveau du capital et surtout des moyens pour recruter cet été. Je pense que c'est ce que tous les supporters du PSG ont envie. Sur le papier, ça semble séduisant, mais maintenant, il faut attendre d'être sûr des intentions des nouveaux actionnaires.
Bernard Lama, vous êtes d'accord avec les propos de Jean-Louis Tour ?
Oui, bon, je pense que c'est un... Il y a des gens qui veulent venir et qui veulent apporter leurs moyens, donc faut voir déjà. Mais je pense qu'il faut respecter certains équilibres, effectivement. De toute façon, on va pas du jour au lendemain acheter Cristiano Ronaldo, Messi ou quoi que ce soit. Non, je pense que il y a un travail qui a commencé à être fait là avec Robin Leproux, avec Antoine Comboiré. Il y a des jeunes qui sortent aussi, donc faut trouver le juste milieu en fait entre la promotion des jeunes talentueux du club et des joueurs de haut niveau pouvant arriver au club. Mais en tous les cas, je pense que ça va aider. Je pense que Paris a toujours eu un attrait particulier au niveau des joueurs. Là, ça va s'accentuer encore un petit peu plus parce que la venue de cet actionnaire-là rassure un petit peu tout le monde.
Et puis, ce qu'on se dit aussi maintenant, c'est depuis des années, Colony Capital n'a plus investi dans le PSG. Et pourtant, Robin Leproux, Antoine Comboiré ont réussi à faire de très bonnes choses. Donc maintenant, on est tenté de se dire, avec un peu plus de moyens, c'est quand même assez prometteur. Mais il y a quand même un chantier, parce qu'il y a des joueurs à remplacer. Il y en a qui sont partis à la retraite, Makelele, Coupé. Il y a des joueurs, il y a des postes où il y a quelques déficits au PSG. Donc bon, ça va être le vrai chantier qui commence pour le PSG.
Eric Silvestro, qui devient également supporter du Paris Saint-Germain après la descente de Monaco en
Ligue 2.
Il a toujours été un peu. Eric ?
Jamais.
Bon, arrêtez, vous avez une petite tendresse. Non, Eric Leparc.
J'ai simplement dit que j'espérais que la Ligue des Champions, que le PSG joue avec des champions, comme ça, vu qu'on travaille à Paris, on verrait au moins des grands matchs de foot à
non,
Paris.
Mais voilà, attendez, l'ambiance au
j'ai
parc,
juste
Eric.
Dit ça. Ah, mais j'ai toujours dit également que le Parc des Princes était, à mes yeux, le plus beau stade de France et là où il y avait la plus belle ambiance.
J'aime vous l'entendre
dire. Mais je ne supporterai jamais le Paris Saint-Germain. On ne renie pas son club, même en Ligue 2.
Jamais dire jamais.
Non. Bah alors là, je peux le dire et le redire et vous pouvez enregistrer la bande. Voilà. Par contre, je peux renier tous les dirigeants et tous les incompétents qui ont envoyé le club de Monaco en Ligue 2, ça oui, mais pas le club
bon,
lui-même.
Pour revenir au Paris Saint-Germain et l'arrivée donc de cet actionnaire, Eric.
Pour moi, c'est une excellente nouvelle. Pourquoi ? Parce qu'en France, moi, ce qui m'agace, alors on a de très bonnes intentions toujours en France avec la DNCG, les clubs bien gérés, tout ça, c'est super, hein, c'est de très bonnes intentions. Mais on est toujours les dindons de la farce parce que partout en Europe, les grands clubs, ils ont des dettes abyssales, ils achètent, ils ont des super salaires, ils ont des grands joueurs et à l'arrivée, ils font des résultats en Coupe d'Europe et pas la France. Alors moi, j'en ai marre qu'on soit le bon petit élève, ça changera jamais. De façon, quand on nous dit la DNCG européenne, c'est que du flan, j'y crois pas une seconde. Et si un jour elle existe, et ben les clubs feront leur ligue privée et de toute façon, ça changera rien. Donc on arrête d'être les bons élèves et qu'on gagne gagne rien en Coupe d'Europe et qu'on n'existe pas. Faisons comme tout le monde, profitons des investisseurs qui ont de l'argent, faisons des grandes équipes et peut-être qu'après on pourra espérer quelque chose. Donc je ne dis pas que le Paris Saint-Germain va devenir demain une grande équipe grâce aux investisseurs qataris, mais au moins il y a le potentiel, s'ils ont vraiment envie de faire quelque chose de ce club, ils auront les moyens de le faire. Et je pense qu'il y a une autre très bonne nouvelle qui est couplée avec ce rachat du PSG, c'est le fait qu'ils ont acheté, des investisseurs qataris ont acheté les retransmissions des matchs du championnat de France pour l'étranger. Ce qui veut dire que déjà, ça a annoncé la vente du Paris Saint-Germain, parce qu'ils n'achetaient pas le club, ils n'achetaient pas le championnat de France juste pour rien.
Oui, bien
donc,
sûr.
S'ils veulent aussi diffuser tout le championnat de France, c'est que c'est pas juste une lubie comme ça de s'amuser sur un club, il y a un vrai intérêt, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir mettre ce club en avant, notamment pour les diffusions télé à l'étranger. Donc tout ça me semble plutôt cohérent, et c'est une bonne nouvelle. De toute façon, Colony Capital se serait désengagé à moyen terme parce qu'ils en avaient marre d'investir pour rien, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Espérons maintenant qu'en effet ça tarde pas au niveau de l'investissement et que le PSG puisse construire une belle équipe. Après, comme a dit Bernard Lama, il faut pas faire n'importe quoi, il faut pas commencer à acheter tous les joueurs à 40 millions sous prétexte que soi-disant ils sont bons parce qu'on a de l'argent. Il faut faire quelque chose de cohérent.
Pourtant c'est ce qu'attendent actuellement, je pense, si on essaie de se mettre dans la peau d'un supporter.
Non.
Pour le supporter, c'est quoi? C'est avoir des stars sur le terrain, non. Avoir une belle équipe et du beau jeu.
Mais non, mais là par exemple, je pense que le dossier qui va être un petit peu principal cet été, c'est Gamero, attaquant de Lorient, que tout le monde veut, qui n'est pas contre venir au Paris Saint-Germain, mais qui coûte une certaine somme.
Surtout sans la Ligue des Champions, il coûte encore plus cher.
Voilà, exactement. Mais si on peut faire l'effort d'attirer Gamero, qui aime le club, parce qu'on lui donne vraiment entre guillemets ce qu'il veut. Gamero, c'est pas une méga star qui coûte non plus 60 millions, mais c'est un joueur d'avenir et c'est une sorte de pari intéressant. Donc, c'est autour de ce genre de joueur qu'on va voir si le PSG peut grandir, quoi.
Vous parlez de Gamero, moi j'ai envie d'interroger Bernard sur l'autre extrémité sur le terrain, le poste de gardien, puisque Grégory Coupé arrête. Apoulaïdel est visiblement poussé vers la sortie.
Ils ont pris Duchesse.
Moi, c'est pas fait encore.
Je pense que Duchesse a dit qu'il était son retour. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement affûté.
Ça ne va pas dire que d'autres. Hein.
Mais
vous, Bernard, s'il y a un gardien sur le marché en Ligue 1 à prendre, vous mettriez une petite pièce?
Non, moi, j'en connais un qui est jeune, qui a 24 ans, qui a été formé à Lyon, que j'ai découvert, qui était en Martinique, qui s'appelle Johan Artok. Donc, si le PSG cherche un très bon deuxième gardien, parce que apparemment c'est Duchesse qui va avoir le poste de numéro 1. Donc Johan, il est en fin de contrat.
Maintenant.
Il est toujours à Lyon, il est en fin de contrat. Donc ceci dit, il y a pas mal de gardiens. Je pense que ça va bouger pas mal cette année au niveau des gardiens.
Vous lancez un appel là? Vous avez déjà quelques pistes?
Non, je lance pas un appel. Vous m'avez posé une question, je vous réponds.
Si je connais un gardien pour venir à Paris, donc
pour un
j'en
deuxième,
connais.
Ça, hein, oui.
Ceci dit, je pense que le marché des gardiens va bouger cette année, hein, puisque.
Bah oui, Ruffier va bouger, Duchesse va bouger.
Ouais, ceci dit, tous les ans c'est comme ça, mais je rappelle qu'il y a qu'une seule place.
Hein. Oui.
Dans l'équipe, il y a qu'une seule place pour un gardien. Bon, en général, les clubs promeuvent leurs jeunes gardiens qu'ils forment. Donc,
il n'y en a pas à Paris, ça tombe bien.
Ça va être. J'ai entendu parler de très très.
Areola Oui, mais en numéro 2.
Oui,
il ne pas balancer le gamin numéro 1.
Non, mais on parlait de numéro
2. Numéro 2, d'accord.
À partir du moment où Duchesse vient à Paris, maintenant, s'il ne vient pas, s'il ne signe pas, la place sera à prendre.
Je peux poser une question technico-tactique entre gardiens de but. Vous ne trouvez pas, Bernard, que les gardiens de but aujourd'hui ne sortent plus dans les airs?
Ils sortent plus, ils boxent tous les ballons, ils ne captent plus.
Et pourquoi? C'est les nouveaux ballons ou
non,
c'est la formation des gardiens?
Non,
ça fait plus
spectaculaire. Ça n'a rien à voir avec les ballons. Je pense qu'il y a toujours eu des ballons qui flottaient, il y a toujours eu des ballons.
Pour les plus jeunes, Bernard, c'était quand même la référence des sorties aériennes.
Après, c'est une question d'état d'esprit. Hein. Moi, depuis tout gamin, j'étais habitué à sortir. Donc, après, c'est une question de qualité déjà, à la base. Hein. Il faut avoir la vision, il faut avoir la détente, il faut avoir énormément de choses. Et puis, il y en a qui le font quand même, il me semble, hein, dans le championnat de France.
Ouais, Manu et Jean-Louis, vous étiez même pas nés, Manu et Jean-Louis, que Bernard, il faisait ça sans les gants en plus.
Non, mais pour.
Bah oui, Bernard Lama, vous jouiez sans gants au début.
Oui, c'est vrai, mais j'ai pas l'impression que vous soyez tellement plus âgé.
Moi, je l'ai vécu, je vous ai vu au stade Louis II sans gants. Hein.
Non, c'est vrai, c'est vrai.
Je vous ai vu au stade Louis II sans gants quand j'étais avec mon grand-père dans les tribunes pesage du stade.
Mais ce qu'il faut expliquer quand même sur le poste de gardien de but, c'est que les sorties aériennes,
Alors là, c'est peut-être que mon point de vue, mais c'est la chose la plus difficile à réaliser.
Oui.
Et c'est la chose la plus importante. Comment donner confiance à une défense? C'est quand vous êtes un peu acculé, vous faites une sortie aérienne, vous calmez tout. Et c'est la chose la plus difficile. C'est pas l'arrêt sur sa ligne qui est un peu spectaculaire pour repousser
pas,
le ballon.
Vous avez pas besoin de le dire, Jean-Louis Tour. Je peux vous dire que je suis très fier d'avoir reçu les deux gardiens les plus spectaculaires et de loin de l'histoire du football français, Pascal Olmeta et Bernard Lama.
Ah ouais, voilà.
Mais le côté spectaculaire, faut pas qu'il occulte la qualité technique.
Et souvent c'est le cas quand même.
Bon, après les sorties aériennes, ben voilà, comme tout, ça se travaille. Et après, c'est une question d'état d'esprit, de confiance.
C'est pour ça que Ruffier est considéré comme un très bon gardien parce qu'il est très spectaculaire sur sa ligne.
Oui, mais moi, il m'énerve
pour le reste.
Voyez.
Bon. Voilà. Allez, juste,
ça fait pas tout d'être spectaculaire sur sa ligne. C'est le plus facile. Moi, par exemple, je suis un gardien très moyen à mon niveau. Et sur ma ligne, je me débrouille. Mais dès qu'il faut aller dans les airs, je suis à la rue. Vous voyez, il y a des choses plus dures que d'autres à réaliser.
Bon, bah écoutez.
Mais Jean-Louis, vous disiez que c'était récent. C'est pas si récent que ça. Moi, j'ai souvenir d'un Andreas Köpke, par exemple, qui ne captait jamais un ballon.
Oui, bon, ça, c'est un peu le style allemand. On le retrouve chez Oliver Kahn. On l'a retrouvé un peu chez Lehmann aussi.
Neuer aussi.
Neuer un peu moins. Justement, c'est ce qui m'avait beaucoup impressionné avec lui en Coupe du Monde. Qui cherchait à garder les ballons, qu'il avait un très très bon jeu au pied, et puis bon, sur sa ligne, il est impeccable. Mais je crois que le poste de gardien est un poste primordial, c'est évident. Mais je pense que voilà, c'est une question d'éducation dès le départ, dès la base. À partir du moment où on explique à un gamin que la prise de balle est importante, parce qu'une fois que le ballon est capté, il est capté, il n'y a plus de danger. Ouais. Après les sorties aériennes, c'est l'une des choses qu'il faut avoir dans sa panoplie.
On est tous d'accord pour dire aujourd'hui que le plus grand gardien français, c'est Hugo Lloris, c'est le meilleur, et de loin, non, Mandanda qui est juste derrière.
De loin, je sais pas, mais c'est
le meilleur. Je pense que sur la saison, je pense pas que Lloris soit le meilleur. Sur la saison, je pense qu'un garçon comme Landreau a fait une très très grosse saison. Lille n'est pas champion de France pour rien, hein. Il a vraiment fait une très belle saison. Apparemment Mandanda aussi a fait une très belle saison, donc non sur cette année-là je suis pas certain que, puis d'ailleurs c'est pas lui qui a été classé,
c'est vrai,
non, c'est vrai, c'est vrai.
Pour revenir simplement,
il y avait un truc juste, Manu, quand même,
Jean-Louis
Bernard avait quand même quelque chose de formidable.
Dites-nous.
C'est la fin de dégagement et le petit crochet pour repartir quand il y avait un ballon en retrait, Bernard.
Ouais, bon,
fois ça passait difficilement, mais
ça n'est pas passé une fois contre Bordeaux. Mais ça, c'était au tout début de la réforme.
Ouais.
Et ça m'a servi de leçon. Et ça s'est plus reproduit. Après, maintenant, moi, je suis avant tout... J'étais joueur de football avant d'être gardien. J'étais un joueur de football.
Oui.
Donc, j'ai la particularité d'être gardien, donc de jouer avec mes mains. Mais dans mon adolescence, dans mon parcours, j'ai un parcours de joueur de champ.
Ouais.
Donc, était hors de question pour moi de dégager un ballon n'importe comment dans les tribunes.
On dit la réforme, c'est le moment où on n'avait plus le droit, lors des passes en retrait, de prendre le ballon à la main pour les gardiens. Et il y en a, on parlait d'Andreas Köpke, lui, il avait du mal avec ses pieds, par exemple. Quand on lui mettait des ballons en retrait, on n'était pas très sûr.
Parce que ces gardiens-là, c'est des gardiens de ma génération, on n'était pas habitués à jouer au pied.
Et
ça a vraiment évolué après... Après, parce que il fallait absolument intégrer ça dans l'entraînement des gardiens, alors qu'avant ça ne l'était pas.
Alors on va revenir très rapidement à une dernière question concernant l'actualité qui est tombée dans la matinée avec l'arrivée de ce changement de propriétaire. On peut le dire, on a un petit peu dévié, mais il n'y a pas de problème, aucun souci, avec l'arrivée d'un actionnaire majoritaire à hauteur de 70%, un actionnaire en provenance du Qatar. Il y a une prise de position il y a quelques mois, il me semble, de la ministre des Sports Chantal Jouanneau, Eric Silvestro, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui avait déclaré qu'elle n'était pas franchement pour l'arrivée d'un actionnaire en provenance du Qatar, qui valait mieux favoriser une arrivée de fonds française plutôt
ou
européenne, justement. Eric, pour vous, il s'agit de... Il ne faut pas répondre à ce genre de questions. Ce n'est pas important, quelle que soit l'arrivée d'un actionnaire. Il faut le considérer, surtout s'il provient du Qatar. Eric Silvestro ?
Comment vous dire ?
Dites-nous.
Qu'elle s'occupe peut-être de choses qu'elle maîtrise.
Ouais.
Mais non, mais parce que forcément, en tant que
attendez.
Non, mais Manu,
si
la réponse est très simple.
Ça peut se comprendre également.
Mais non, en tant que politicienne, il faut qu'elle ait un droit de réserve sur des capitaux étrangers, qu'elle préfère promouvoir l'investissement français, tout ça. C'est normal. Mais on s'en fout, quoi, de ce qu'elle dit. Enfin, un club, c'est un club privé qui cherche à gagner des matchs, que ce soit des investisseurs qataris, américains. Alors, tant que c'est pas de l'argent, de la drogue ou
des parce que ce qui est très drôle, c'est que ça fait...
Mimo, c'est quand même ce qu'elle a laissé. Elle a dit, si on peut pas savoir de manière très précise d'où vient l'argent, c'est quand même un problème.
Ouais, mais bon, il y a quand même d'autres secteurs autres que le foot où l'argent...
l'argent du Qatar vient dans les caisses de pas de l'État,
mais
il me semble qu'au niveau du Qatar, on sait d'où vient l'argent.
Oui,
il me semble. Il me semble qu'ils ont, ils sont extrêmement riches en pétrole et surtout en gaz.
Non, mais là dans ce cas-là.
Donc non, et puis je pense que le Qatar a une vraie politique de développement à travers le sport qu'ils ont mis en route depuis des années. Ce qui leur permet aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais en 2022, de recevoir la Coupe du Monde.
Ça vous a choqué ça ?
Non, pas particulièrement. Je pense que le football est un sport universel. Donc pourquoi il n'irait pas au Qatar ? Pourquoi on a attendu autant de temps pour aller en Afrique ? Donc ça me choque pas. Je pense qu'on est dans la mondialisation aujourd'hui, quoi. Donc et c'est valable pour les clubs de football aussi. Après, maintenant, où sont les grandes entreprises françaises ? Elles sont pas dans le football.
Ouais, voilà.
Donc je crois que c'est aussi simple que ça. Et il n'y a pas que en France que les gens venant du Qatar investissent.
Vous savez qu'en Espagne, il y a désormais trois clubs qui ont été rachetés par des gens du Qatar. Vous ajoutez à ça le sponsor maillot du Barça, qui est maintenant la Fondation Qatar. Ils sont à l'attaque de d'autres championnats, ça c'est clair.
Ça peut devenir un problème, ça, Eric Silvestro, si le Qatar met la main sur tous les grands clubs, en Europe par exemple, et tout particulièrement dans le monde du football.
La pluralité, c'est toujours mieux. Maintenant, comment voulez-vous empêcher un club qui a besoin de capitaux, d'argent frais pour grandir, pour investir, pour recruter? On va pas refuser un investisseur si celui-ci met l'argent qu'il faut et dans de bonnes conditions. Ça paraît clairement impossible. Je trouve normal.
Je crois que c'est ce discours-là qui avait vexé les Qataris il y a quelques années, hein, quand ils voulaient déjà reprendre le PSG, quoi. Donc, moi je crois que les gens du golf ont déjà beaucoup de choses à Paris, quoi. Pas seulement un club de football, mais ils ont des hôtels, ils ont des immeubles. Donc, je pense qu'on a accepté qu'ils soient propriétaires des grands hôtels parisiens. Donc, pourquoi pas du club
de
football. Et
puis, en quoi Colony Capital, fonds d'investissement américain, est plus respectable qu'un fonds qatari? Enfin, pour moi, c'est pareil.
Non, on est d'accord.
Ou c'est des entreprises françaises parce qu'on fait du protectionnisme, ou alors que ce soit du qatari ou de l'américain ou de l'espagnol ou n'importe quoi, ça change rien. Encore une fois, on disait tout à l'heure les armes ou la drogue, d'accord, là ça peut être compliqué. Mais en même temps, on parlait de Monaco aussi qui va en Ligue 2, qui a plus d'argent depuis 5 ans. Monaco, il y a 5 ans, fait comme Invest, qui est leur sponsor maillot, qui est une société russe d'engrais, avait proposé de mettre 100 millions d'euros pour racheter le club et pour investir au niveau transfert, avec notamment une promesse à l'époque de faire venir Shevchenko. Voilà, la principauté et le palais avaient refusé en disant pareil, l'argent c'est pas trop d'où ça provient. Ils ont voulu faire patte blanche, sauf qu'ils ont quand même accepté le sponsoring maillot, donc ce qui est ridicule, c'est-à-dire qu'ils ont le droit d'être sponsor maillot, mais par contre ils ont pas le droit de mettre de l'argent dans le club.
C'est un peu pareil.
Vous voyez, bon, et on avait refusé ça. À l'arrivée, on voit où est le club aujourd'hui, fallait peut-être mieux accepter à l'époque l'argent des Russes, quoi.
En tout cas, c'est une nouvelle qui fait, je pense, incontestablement plaisir quand même à tous les supporters du Paris Saint-Germain. On passe à un autre sujet, il nous reste 7 minutes précisément. Un petit point peut-être d'ailleurs avec vous, Eric, sur ce qui se passe actuellement sur Roland.
Oui, alors ce qui est important, c'est surtout la fin du match entre Andy Murray et Victor Troicki. On vient d'attaquer donc le cinquième set. On en est à un jeu partout, 40 à, c'est très serré. On a eu des opportunités des deux côtés sur les premiers services adverses. Donc vraiment, ça va se jouer sur
C'est un huitième, ça encore ?
C'est un huitième, oui, c'est la fin du dernier huitième en fait. D'accord. Mais comme je le disais tout à l'heure, le vainqueur jouera Juan Ignacio Chela. Et je veux pas faire, je veux pas être de mauvais augure pour Juan Ignacio Chela, mais théoriquement, il a rien à faire en quart de finale. Il a profité de tout un concours de circonstances qui fait que le vainqueur de Murray et Troicki, vraiment, il a une grande grande chance d'aller en demi-finale. Et c'est pour ça que Murray, qui s'était tordu la cheville au match précédent, a quand même essayé de jouer hier. Ça a été un peu difficile dans les deux premiers sets, et puis avec les muscles qui sont, enfin tous, avec le fait de se chauffer petit à petit, ça allait mieux. Et je peux vous dire que Murray, il s'accroche comme un mort de faim, même s'il a un peu mal à la cheville, parce qu'il sait qu'il a un jour de repos encore derrière, et que Sheila, c'est un adversaire plutôt facile. Donc il y a un partout, balle de break pour Murray.
Ouais.
Et juste sur le court, Philippe Châtrier, la tenante du titre, Francesca Schiavone, est en grande difficulté dans le début de match parce qu'elle est menée 3-0, double break par Pavlyuchenkova.
Qu'est-ce que c'est nul le tennis féminin, Eric ?
Je peux pas vous donner complètement.
Bon, allez, on va pas ouvrir un débat sur le tennis féminin.
Il faudrait qu'on le fasse quand même dans la semaine.
Le fera dans la semaine. Il y a pas de souci.
Ça fait à peu près 7 minutes dans Carrément Tennis sur une heure.
Au programme, on a bien compris. Au programme du jour également, les luttes de pouvoir au sein de la Fédération française de football. Élection prévue le 18 juin prochain. Notre invité Bernard Lama, on l'a dit, est sur la liste de Fernand Duchossois. On rappelle, il y a Noël Le Graët, mais ce n'est pas tout, il y a également un autre. Rappelez-moi d'ailleurs le nom de cet autre candidat. Il y a un petit article ce matin, effectivement, dans l'équipe.
Éric Thomas,
voilà, tout à fait. Bon, qui lui, il a plutôt une grosse cote pour le coup.
Non, mais c'est nouveau ce qui se passe. Il y a une réforme qui a été engagée qui permet à quelqu'un comme Eric Thomas de se présenter. Il y a quelques mois, ça n'aurait pas été possible. Donc, on avance dans le débat.
Donc ça, c'est une bonne chose. Bon, le duel, il est quand même logiquement entre Fernand Duchossois et Noël Le Graët. Alors, la question, elle est simple. Pour vous, pourquoi Bernard Lama, Fernand Duchossois, est le mieux placé pour prendre le poste au sein
Moi, je crois que c'est quelqu'un qui connaît très bien le milieu du football. Qui connaît très bien la base, je pense qu'il y a une gestion qui a eu des dossiers très lourds à gérer là depuis qu'il est président, enfin même avant, puisque donc je pense que c'est quelqu'un qui a le vécu, qui a l'expérience, qui a su s'entourer de compétences et puis qui n'a pas un passé trop lourd à la Fédé non plus aussi. Donc et puis je pense que c'est quelqu'un d'honnête.
Il a été très critiqué, hein. Tout particulièrement ces dernières semaines.
Mais c'est normal. Aujourd'hui, la fédération a un bateau qui est un peu à la dérive. Et on a beaucoup vu Fernand Duchossois sur les médias à devoir gérer des crises. Donc, on l'a pas encore vu dans une situation normale, assainie. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre. Je crois qu'il y a une réforme qui a été engagée. Il l'a dit lui-même hein, ce midi, il a envie d'aller au bout de cette réforme et il a choisi une équipe pour l'accompagner. Je pense que c'est tout à son honneur. On sent vraiment qu'il y a une volonté de travailler et qu'il l'admet lui-même, qu'il ne sait pas tout faire. Donc il s'est adjoint des personnes qui pourront le compléter dans différents domaines. Et voilà, on sent que c'est pas une ambition personnelle en fait. Et je crois que ça va faire la différence à un moment donné parce que.
Contrairement à Noël Le Graët, peut-être.
D'une part, mais puis même aussi, je pense que sur cette liste-là, il y a pratiquement personne qui était là à la Fédé ces dernières années. Et ça aussi, c'est une bonne chose. C'est un 109 qui arrive sur l'autre liste. Il y en a 3 qui étaient là et pas des moindres.
Ouais.
Donc bon, maintenant au-delà de parler de l'autre liste ou quoi que ce soit, nous on a comme les autres, hein, on a un programme et on a envie de d'avoir la possibilité de le mettre en place, sachant que cette élection-là, comment dirais-je, elle est limitée dans le temps, puisqu'on sait qu'il y a 18 mois avant une prochaine élection. Donc je pense que ce serait plus logique de permettre à Fernand Duchossois d'aller jusqu'au bout de cette réforme-là.
Quand Le Graët déclare il a des qualités humaines, il parle bien sûr de Duchossois, mais qu'il dit « lui confier mon entreprise, jamais ».
Ben, ça, c'est son opinion. On va la respecter, mais on n'a pas forcément la même opinion non plus. Et puis, je pense que, comme je l'ai dit, hein, y a beaucoup de personnes sur cette liste-là qui sont des personnes reconnues dans leur domaine.
D'accord.
Donc, qui aideront Fernand Duchossois à gérer la fédération. Je crois que quelqu'un qui a déjà fait la preuve de ses capacités à la Ligue de football amateur, hein, donc, qui est très bien connu de la base. Et je crois que ça, c'est primordial.
Ça vous intéresse, Jean-Louis Tour, cette course au pouvoir du football français?
Moi, je trouve ça bien, l'idée de très politique, finalement, d'avoir un débat, de projets qui s'affrontent, et je pense que ça peut que faire avancer les choses. Ce qui m'embête un peu, c'est les petites phrases assassines pour critiquer le bilan de l'autre. Bon, je trouve ça un peu moyen.
Non, mais... ça, vous voyez pas ça. Ça vient pas de chez nous, vous voyez pas ça
chez
nous.
J'ai pas dit
que
ça venait de chez vous.
D'accord. Non, mais je tiens à le préciser quand même.
Mais après,
même.
C'est quand même le jeu d'une campagne également.
Non, moi, je crois que le jeu d'une campagne, c'est de présenter son programme, c'est pas forcément de casser les adversaires.
D'accord. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ça. Et je pense, ceci dit, que ça peut être bon pour le foot français d'avoir quand même cet affrontement, mais vraiment sur les projets, sur les idées, sur la réforme du foot français, comme elle doit avoir lieu, et c'est quelque chose d'indispensable.
Ouais, vous avez 20 secondes, Eric Silvestro, pour apporter quelque chose au débat. Il est plus là, Eric Silvestro, c'est pas
il
grave, on va le retrouver, il le fera tout à l'heure, en première, juste derrière avec le tennis en grand format. Tout ça pour rappeler, on a plusieurs choses à rappeler d'ailleurs. Bon, l'élection, bien sûr.
Manu
Oui, Eric
Le retour, formidable. Bah non, mais si vous vouliez participer au débat.
Oui, pour apporter juste quelque chose de supplémentaire.
On m'avait transféré dans l'autre cabine, vous savez, pour l'émission d'après et tout. Alors,
non, voilà, on a fait ça, franchement. On a voulu vous couper la chic. Oh là là.
Non, alors dans les
jeux. Sur la Fédé.
Bon, on voulait.
Sur la Fédé, j'ai entendu Bernard parler de Fernand Duchossois. Je suis pas tout à fait. Je partage pas tout à fait. Mais non, mais. Moi, je trouve que la façon dont a été gérée l'affaire, notamment des primes, j'ai trouvé ça hallucinant.
les primes de Coupe du Monde là. Et
il n'y a pas que ça qui était hallucinant, c'est tout ce qui s'est passé qui
était
hallucinant.
Oui, mais moi quand j'entends un président de Fédération Française, Bernard, qui me dit « Ah, vous comprenez, les joueurs, c'est difficile de les joindre, tout ça, mais attends,
mais c'est vrai.
Mais t'es le président de la Fédé, arrête !»
Mais non, faut arrêter.
Mais quoi, mais même les journalistes, on a les portables des
même,
mecs.
Mais même moi, je n'arrive pas. Oui, mais peut-être qu'ils répondent aux journalistes et qu'ils veulent pas répondre au président de la Fédé. Mais moi, il y a des joueurs que je n'arrive pas à joindre.
Mais d'accord, mais le président de la Fédé, il prend un avion, il va dans la ville où joue le joueur, il va le voir à la sortie de l'entraînement, il le convoque.
Ouais,
mais moi, je
pense
qu'il y avait.
Ouais, non, mais faut arrêter. Arrêtiez aussi. Je pense que Fernand Duchossois est arrivé à une période très délicate.
Oui.
Il a été amené à gérer des dossiers qui n'étaient pas, qui n'avaient pas provoqué.
D'accord.
Et c'est pas forcément évident.
Ah non, mais
et
ça,
dans
pas
ce qui s'est passé, il faut quand même pas négliger non plus parfois la mauvaise volonté de certains joueurs ou simplement le fait qu'ils n'étaient pas joignables.
C'est vrai.
Je pense que c'est pas lié à Fernand Duchossois. Et je pense que ces choses-là, peu ou prou, enfin pas ou prou, elles ont été réglées. On peut pas mettre à son bilan ce qui s'est passé en Afrique du Sud et ce qui se passe aujourd'hui. Je l'ai dit tout à l'heure, la Fédé aujourd'hui c'est un bateau qui a un commandant mais qui n'a pas d'équipage, donc on trouve pratiquement une seule personne.
Il faut plutôt changer d'équipage donc. Il faut trouver un équipage.
Quoi.
Bah donc
c'est
y a
pour ça que nous sommes là. Quoi.
Et qui tangue un peu.
Bon, bah écoutez, en attendant, on cherche toujours le bon capitaine. Hein. Peut-être Fernand Duchossois, peut-être Noël Le Graët. On rappelle donc élection le 18 juin prochain. Autre date importante. Bien tiens, dès demain, on va rappeler, parce que c'est avant tout la raison de votre venue, Bernard Lama, le match, bien sûr, en l'honneur de David Sommeil pour aider tous ses proches. On rappelle ce joueur qui a été victime, malheureusement, d'un malaise cardiaque avec des stars sur le terrain. Bien sûr, rendez-vous demain à partir de 20h à Valenciennes. Et puis bien sûr le jubilé également le 11 juin prochain au Parc des Princes. Merci Bernard Lamane de nous avoir accompagné. Je vous en prie de nous avoir accompagné tout au long de ce Café des Sports. Vous revenez quand vous le souhaitez. Je remercie également Eric Silvestro et je remercie Jean-Louis Tour. Restez connectés, le tennis en grand format cette fois-ci. Un petit point tout de même évidemment sur toute l'actu sport juste avant.